Nous sommes heureux d'accueillir Abouna Samer Nassif, qui nous vient du Liban, dans le cadre de l'aide à l'Église en détresse. Voilà, et lors de l'homélie, nous parlera de son pays. Bienvenue aussi aux jeunes de Bru, accompagnés par leur pasteur, par les personnes qui sont en formation, notamment avec aussi Marc Bourgeon. Voilà, bien entrons dans cette célébration pour nous préparer à Noël.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
Amen.
La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soit toujours avec vous.
Et avec votre esprit.
Commencement de cette Eucharistie, chers frères et sœurs, préparons-nous à la célébrer en reconnaissant d'abord que nous avons péché.
Lecture du livre du prophète Michée. Ainsi parle le Seigneur, toi, Bethléem Ephrata, le plus petit des clans de Juda. C'est de toi que sortira pour moi celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent au temps ancien, aux jours d'autrefois. Mais Dieu livrera son peuple jusqu'au jour où enfantera celle qui doit enfanter, et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les fils d'Israël. Il se dressera, il sera leur berger par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur, son Dieu. Ils habiteront en sécurité, car désormais il sera grand jusqu'au lointain de la terre, et lui-même il sera la paix. Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en entrant dans le monde, le Christ dit : Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes, ni les sacrifices pour le péché. Alors, j'ai dit : Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté. Le Christ commence donc par dire : Tu n'as pas voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché. Ce que la loi prescrit d'offrir, puis il déclare : Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes tous sanctifiés. Par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps, une fois pour toutes. Parole du Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendut la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte : Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. Dieu, d'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Très chers frères et pères, très chers fidèles du Christ, je tiens absolument à remercier la communauté pour son accueil chaleureux, pour m'avoir donné l'honneur d'être parmi vous et la grâce de célébrer cette Eucharistie. Prêtre depuis 28 ans, fier de l'être, Libanais catholique, de rite maronite, c'est-à-dire de culture d'origine araméenne, comme Jésus, je suis araméen, tout en étant en même temps arabophone et francophone. Voici la belle écriture araméenne qu'écrivait et parlait Jésus. Il est écrit Tadishat, Alohu. Alohu est le mot araméen qui a donné en arabe Allah, Dieu. Tadishat, Kadish. Isaïe a entendu les anges chanter Dieu Kadish, 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 c'est-à-dire celui qui est saint par essence, celui qui a toujours été saint, qui n'a pas besoin de sainteté, celui qui sanctifie le monde entier. C'est le mot donné uniquement à Dieu. Et puis, quand l'ange dit à Marie, tu vas recevoir un fils qui, dans ton sein, sera un Kadish. Elle a compris qu'elle va porter le divin en elle. Kadishat Alohu, traduit en français par Saint le Seigneur. Cela fait plus de 18 ans qu'en France, je suis au service de l'AED, l'aide à l'Église en détresse, œuvre pontificale de charité, fondée il y a 74 ans pour soutenir et pour défendre les chrétiens menacés ou persécutés dans au moins une centaine de pays dans les quatre coins du monde. Je peux vous donner l'exemple de mon peuple, les chrétiens du Proche-Orient, qui sont les premiers chrétiens du monde et les vrais peuples en Orient. Excepté le Liban et l'Arménie, sinon tous les chrétiens, du Maroc jusqu'à l'Inde et la Chine, sont privés de liberté religieuse. Je m'explique par deux exemples. Pourquoi, dans les pays dits musulmans ou arabophones, dans plusieurs États en Inde, dans des vastes régions en Chine, un prêtre est condamné par la loi à la prison ou à la mort s'il ose baptiser un converti? C'est-à-dire, ce sont par exemple des milliers et milliers de convertis dans notre monde arabophone, chrétien, sans le baptême, et qu'on ne peut jamais les baptiser à cause des conditions politiques actuelles. Ils mourront, malheureusement, chrétiens, sans le baptême, sans entendre la grâce que nous avons. Voici le corps du Christ. Va en paix, tes péchés sont pardonnés. Pourquoi aussi, par exemple, dans un pays comme l'Arabie Saoudite, la présence d'une église ou d'un prêtre est strictement interdite pour 3,5 millions de chrétiens qui vivent et travaillent en Arabie Saoudite? Si nous sommes devenus une minorité à cause de la persécution et de l'émigration, regardez en Irak, 2003, 1,5 million de chrétiens pour moins de 400 000 aujourd'hui. Nous, chrétiens libanais dans le monde, 20 millions, et le Liban, pays à peine plus grand que la Mayenne, 4 millions, 5 millions d'habitants, dont 50% de chrétiens. Chef d'aide du Christ, quand la paix en Orient? Personne ne peut répondre à cette question, mais pas de paix sans les chrétiens. Nous sommes les seuls qui peuvent accomplir la double mission qui sauve l'Orient. Nous sommes le peuple du pardon et nous sommes le peuple du dialogue. Nous sommes le peuple du dialogue. En plus, des chrétiens et musulmans sunnites et chiites existent en Orient. Au moins 15 communautés ni chrétiennes ni musulmanes, comme les juifs, les druzes, les alaouites, les ismaéliens, les zoroastriens, les mandéens, les bahaïs, etc. Je vous lance un défi de trouver en Orient un seul village mixte entre ces différentes communautés religieuses qui ne peuvent cohabiter ensemble sans les chrétiens. Déjà, Jésus, en arrivant en Samarie, Saint Jean l'évangéliste ouvre une parenthèse et dit « Les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Les Samaritains ne fréquentent pas les Juifs. » C'est-à-dire que chaque communauté religieuse vive à part, sans aucune convivialité, et même ces communautés se diabolisent. En venant en Samarie, Jésus brise à tout jamais la haine entre communautés, ouvre la fraternité entre les hommes. Voilà le rôle de l'Église aujourd'hui en Orient. Voilà pourquoi là où il n'y a plus presque de chrétiens, des murs entre nos chrétiens. 5 murs dans la capitale irakienne Bagdad, entre sunnites et chiites. L'Arabie Saoudite sunnite, mur en plein désert de 900 kilomètres pour se protéger des chiites. Que dire des nombreux murs de séparation en Palestine-Israël entre juifs et musulmans? Le plus grand mur d'aujourd'hui, c'est la Turquie qui est en train de le construire avec sa frontière avec l'Irak et la Syrie. Pour se protéger des Kurdes, en Syrie, 2011, 10% de chrétiens, pour moins de 2% aujourd'hui. Voilà pourquoi je ne serai pas étonné un jour que des murs s'élèvent un jour en Syrie, entre sunnites et alaouites, arabes et kurdes, druzes et musulmans, alaouites et druzes, etc. Le seul endroit où il y a encore une possibilité en Orient de dialogue interreligieux et intercommunautaire, c'est le Liban. Pourquoi? Car il y a beaucoup de chrétiens au Liban. Car la France et l'Église, c'est eux qui il y a 100 ans, ont fondé la République libanaise. Comme l'a consacré le Saint-Pape Jean-Paul II, le Liban est plus qu'un pays, c'est un message de liberté et de convivialité entre 19 communautés religieuses. Sans les chrétiens, il n'y a pas de Liban. On me demande souvent pourquoi nous, Libanais, on a échoué dans cette mission. On n'a pas échoué. Nous sommes un tout petit pays entouré de dictateurs, entouré des pays qui, les dernières 50 années, ont été islamisés à fond, entourés de pays en guerre. Nous sommes, nous-mêmes, Libanais, occupés par des forces régionales et internationales. Jusqu'à maintenant, le Liban est un pays occupé. Comment voulez-vous qu'on vive notre mission quand on n'est pas encore vraiment indépendant? Mais le peuple libanais, je vous assure, vous allez au Liban, vous allez découvrir que ce peuple a dans son âme la convivialité. Le Liban, quand vous récitez vos psaumes, il y a toujours le mot Liban. Liban, ce n'est pas notre pays qu'on appelle aujourd'hui Liban. Le Liban, dans la Bible, c'est la chaîne de montagnes, d'où le mot Liban, ça veut dire blanc en araméen, la montagne blanche. Elle culmine à 2300 mètres d'altitude. C'est grâce à cette montagne qui a protégé les chrétiens. Dans les hauts sommets de cette montagne, il n'y a que des catholiques, que des maronites, qui ont grimpé aussi haut pour se protéger et rester libres des chrétiens. C'est grâce à cette montagne que l'Église au Liban est restée toujours vivante et forte. On n'imagine pas que le Liban est une montagne. C'est le plus petit pays oriental qui n'a pas de désert. Allez sur Internet et voyez cette belle montagne. La Galilée, géographiquement, c'est la continuité de la montagne du Liban. C'est quand on entre dans le désert de Juda, dont Jérusalem est la capitale, qu'on quitte la montagne du Liban. Quand on est au lac de Tibériade, on voit autour de nous cette belle montagne du Liban. C'est du Liban où vient l'eau qui arrose toute la Palestine et la Galilée. Jésus a toujours été présent dans cette montagne. Il a même circulé dans cette montagne jusqu'à Tyr et Sidon, et même les traditions disent qu'il est arrivé aussi à Beyrouth. Nous sommes le pays de Jésus. Nous sommes aussi le pays du pardon. Nous sommes le peuple du pardon. Je me rappelle de ce fameux dimanche, 11 mai 1997, le Saint-Pape Jean-Paul II au Liban. Il célèbre une messe à Beyrouth et déclare « Nous volons du Liban. C'est pourquoi nous pardonnons, nous demandons pardon. » Et vous, Libanais non chrétiens, voulez-vous du Liban? Avant que le pape quitte mon pays le soir, les druzes et musulmans libanais ont dit au pape, puisque vous avez demandé aux chrétiens de pardonner, et nous avons vérifié qu'ils ont véritablement pardonné, nous aussi, suite à leur exemple, nous voulons pardonner, nous voulons du Liban. Le pardon est un acte continuel, parce que continuellement au Liban, nous chrétiens, nous pardonnons, et notre pardon engendre le pardon des non-chrétiens, que le Liban est toujours possible. Comme l'Europe, pardon entre Français et Allemands, a créé l'Europe. L'Europe en paix. De la même manière, aucune paix en Orient, sans pardon entre chiites et sunnites, perses et arabes, turcs et kurdes, juifs et musulmans, druzes et musulmans, sunnites et alawites, arabes et kurdes, etc. Chef d'aide du Christ, je suis désolé de vous annoncer que l'État libanais est mort. Il n'y a plus de Liban. C'est fini. D'abord, c'est un pays qui, au bout de la famine. Quand je mange en France, je dis, ah bon, je mange en France et au Liban, il y a des familles qui n'arrivent pas à manger. Les familles n'arrive plus à manger la viande. Nous avons une destruction au Liban politique, économique et sanitaire. Nous avons une classe politique corrompue qui, en 30 ans, ont détruit l'économie du Liban. Quand je dis l'économie, ça veut dire la monnaie. Il y a 2 ans, 1 dollar, 1500 livres libanaises. Aujourd'hui, 1 dollar, 30 000 livres libanaises. Ce qui fait que, par exemple, maman, qui, il y a 2 ans, a hérité de papa une somme d'argent à la banque. Papa était un haut fonctionnaire dans l'État. Une somme d'argent à la banque en livres libanaises équivalente à 150 000 dollars. Il lui reste aujourd'hui que 8 000 dollars. Et les banques disent à maman, oublie votre argent. Car tout le monde veut prendre son argent à la banque et les banques n'ont pas l'argent des gens, l'argent est fictif. Et l'État déficitaire puise dans l'argent des gens pour continuer à payer ses fonctionnaires et l'armée. Au Liban, il n'y a pas de médicaments. Maman qui prend 2 médicaments par jour pour les battements de son cœur, c'est moi qui lui donne ces médicaments. Elle ne le trouve pas au Liban. Les gens qui ont la maladie du cancer meurent chez eux. Même ceux qui ont le Covid, qui ne peuvent pas aller à l'hôpital. Que dire? La destruction éducative et des hôpitaux. Vous avez entendu parler de cette explosion de Beyrouth. En une seconde, tous les quartiers chrétiens de Beyrouth ont été détruits. Et uniquement les quartiers chrétiens de Beyrouth. Ça veut dire 300 000 familles sans maison. 500 églises, 120 écoles catholiques endommagées. 7 000 blessés. 7 000 handicapés, 2 300 morts. 300 sociétés chrétiennes qui ont déposé le bilan. On a détruit, en détruisant Beyrouth, le cœur économique de tous les chrétiens d'Orient. Je ne pense pas que, humainement, il y a une espérance. Par contre, il y a toujours une espérance, et moi je le dis à mon peuple, mais cette espérance vient de Dieu, vient pas des hommes. Première espérance, le peuple libanais. Il y a toujours un petit reste qui lutte, qui veut rester au Liban, et qui croit encore qu'on peut se ressusciter. Beaucoup émigrent. 65% des Libanais ont déjà émigré. Je vois bien les parents à l'aéroport disent à leurs enfants, ne revenez plus, partez. Parce que c'est l'enfer au Liban. Il y a toujours un petit reste qui va lutter. De toutes les communautés. Au Liban, parce que le peuple libanais est dépouillé. On a l'expérience que le matériel, l'argent, c'est rien. En une seconde, tout ce qu'on a peut nous être enlevé d'une manière brutale et dure. Et on devient pauvre, on n'a rien. Voilà pourquoi ce dépouillement crée une grande spiritualité intérieure. Quand vous allez à Noël au Liban, vous priez avec le peuple libanais, il attend tout de Dieu. Quand il entend aujourd'hui vos aînés un sauveur, c'est ce qu'il attend. Et on répète le cantique de Marie continuellement au Liban. Et on croit à sa prophétie il y a 2000 ans. Les puissants de ce monde, Dieu va les renverser. Il va élever les humbles. Nous sentons que les puissants de ce monde, que les forces du mal de ce monde ont vaincu sur nous, et Marie nous dit non. Dieu va vaincre les puissants de ce monde. Il va donner du pain aux affamés, et rendre les riches les mains vides. Il va se souvenir de son amour, l'amour qu'il porte à son Église, et il va nous sauver. Seconde espérance, les martyrs. Je me demande si mes amis, mes cousins, qui ont donné leur sang pendant la guerre du Liban, leur sang est allé en vain pour qu'on perde aujourd'hui le Liban. 10% de Libanais sont morts pendant la guerre, même les non-chrétiens qui sont morts pour le Liban innocentement sont pour moi des martyrs. J'ouvre le livre de l'Apocalypse. Le sang des martyrs crie au ciel, ô Seigneur, donne-nous justice, sauve notre peuple. Troisième espérance, les saints. Surtout le grand saint libanais, saint Charbel. Son histoire se résume en une phrase. C'était un ermite qui s'est uni à Dieu. Point. Il est mort le 24 décembre, il y a 123 ans. Tout commence quand son cadavre est au tombeau. Son corps s'illumine le soir, devient lumière. Les gens voient cette lumière de loin, accourent à cette lumière, et tout commence. Les aveugles voient, les handicapés marchent, et les gens se convertissent et se baptisent. Jusqu'à 1977, pendant 80 ans, 77, l'année où le pape Paul VI le déclare saint, pour toute l'Église catholique. Un phénomène s'arrête. Le corps de Charbel a donné du sang et de la sueur. Aucun homme est comme Charbel. Dans le tombeau, le cœur ne bat pas, fabrique du sang. Un homme mort dans le tombeau donne du sang en 80 ans, comme 10 hommes dans leur vie. Imaginez avec moi, l'Orient est un désert. Émerge de ce désert une montagne. Au haut de cette montagne, il y a Charbel, une valeur sûre du Christ. De tout l'Orient, du monde entier, on vient à cette montagne pour voir Charbel. Chrétiens et non-chrétiens, Chinois comme Américains, Français comme Irakiens. Cette montagne, c'est la montagne de Jésus. Jésus n'a jamais prié dans le temple. Il a enseigné dans le temple. L'Évangile dit qu'il a prié à la montagne. La montagne du Liban est le temple où Jésus a rencontré son divin, rencontré son Père. Et cette montagne sainte, Dieu va la sauver. Voilà mon espérance. Et dernière espérance, la Vierge Marie, déclarée reine et mère par tous les Libanais, chacun la vénère à sa manière. Le Liban est le seul pays qui a donné le 25 mars, jour national et férié, car le Coran chante à sa manière l'Annonciation à Marie, que Marie a enfanté Jésus sans intervention d'homme, directement de l'Esprit-Saint. Le 25 mars, dans les mosquées, ils chantent l'Annonciation selon le Coran, et nous, on chante l'Annonciation selon l'Évangile, et parfois, ensemble, on chante Ave Maria, car on ne peut pas se réunir autour de Mohammed ou autour de Jésus. Toujours, c'est elle qui nous réunit. Marie au Liban est quelque chose d'extraordinaire. Un imam musulman répète toujours, le Coran dit qu'à la fin des temps, toute l'humanité sera conduite à Dieu par Marie. Nous avons un lien entre le Liban et la Mayenne, Notre-Dame de Poma, car au Liban, il y a le sanctuaire qu'on appelle Notre-Dame de Poma, au Liban. En peu de temps, mon Fils vous sauvera. Il faut conclure, je viens vous demander humblement deux choses. D'abord, votre générosité. Je pense qu'on va vous demander une quête pour aider les chrétiens persécutés dans le monde, surtout au Liban. Si vous voulez faire une offrande de 5, 10, 20 ou 100 euros, pensez pas que votre mission est accomplie. Je demande et j'appelle votre amour pour l'Église. Comment on va récolter aujourd'hui 1000 euros, 2000 euros, 4000 euros? Sachez que pour reconstruire Beyrouth chrétienne, qu'une seconde l'a détruite, il faut 15 ans, 64 milliards de dollars. Mais votre petite offrande aujourd'hui sera un signe pour moi que vous croyez que le Liban vivra. Mais en premier lieu, je viens vous demander votre prière. Quand j'avais 6 ans, et je récite mon chapelet avec mes grands-parents, ma grand-mère commence ainsi le chapelet. Prions d'abord pour la France. Et mon grand-père m'expliquait, la France est l'unique nation au monde que les musulmans, dans une lettre du calife musulman au roi de France, François Ier, reçoit le titre protectrice des chrétiens catholiques en Orient. Pendant 4 siècles, celui qui touche à un chrétien catholique en Orient touche à la France. C'est pourquoi nous avons été protégés. C'est pourquoi, en 1850, 70% des habitants de l'Orient sont devenus chrétiens. Mon grand-père me dit, aujourd'hui, on n'est plus protégé. La France passe par une grande épreuve. La France est endormie. Voilà pourquoi l'Église souffre en Orient. La France, d'abord sauvée, elle saura aussi comment nous sauver et sauver beaucoup de peuples dans le monde. Moi-même, ce matin, j'ai récité un chapelet pour la France. Mes 8 neveux et nièces, avant de dormir, je les ai appris à prier pour le salut de la fille aînée de l'Église. Puis-je demander, chers frères et chers chrétiens, de prier au quotidien pour nous, chrétiens du Liban, comme on prie pour vous, chrétiens de France. Je demande au Seigneur de vous donner la grâce à Noël, de connaître la vraie joie de Noël, cette vraie joie que le Christ vient naître en vous, pendant la crèche, que vous devenez cette crèche et le mangeoire où Jésus se repose, pour découvrir la vraie joie de Noël. Et cela, je le demande au Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.